VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 6 janvier avec vous Tatiana Mosso et Abdourahmane Dia à la une ce soir.
En Côte d'Ivoire, le mouvement d'humeur des militaires à Boaké s'étend à deux autres villes du pays.
Ce matin, on s'est réveillé avec beaucoup de coups de feu qui venaient du centre-ville et on s'est rendu compte autour de 5 heures que deux commissariats avaient été pris.
En RDC, l'Église catholique continue son œuvre de bons offices pour convaincre les derniers réfractaires à signer l'accord intercongolais. Les évêques ont rencontré le Premier ministre à Kinshasa.
Une ONG britannique accuse le Fonds mondial pour la nature de financer des activités qui violent les droits des pygmées au Cameroun.
Et bien, quand on fasse des bastonnades, même la torture, le harcèlement, et certains n'ont pas survécu à la torture.
Après le président Barack Obama, c'est au tour de Donald Trump de recevoir le rapport confidentiel sur le rôle qu'aurait joué la Russie dans la présidentielle américaine.
Et sans oublier la minute écho et l'espoir, Mahrez sacré meilleur joueur africain hier par la CAF.
Et avant cela, le journal sur VOA Afrique. En Côte d'Ivoire, les habitants de la ville de Boaké, dans le centre du pays, ont été réveillés ce matin par les tirs d'armes lourdes. Des soldats mécontents se sont fait entendre. Un mouvement d'humeur qui s'est aussi étendu à deux autres villes du pays, Korogo et Daloa. Le point sur la situation, d'abord avec la correspondante de VOA Afrique à Abidjan, Nareta Namasté.
Les revendications sont d'ordre social. Ils réclament les primes dites Ecomog qui leur est due depuis la crise post-électorale de 2011. Constitué d'une villa et de 5 millions de francs CFA. Des tirs ont également été entendus au 2e bataillon de Daloa, centre-ouest et au 4e bataillon de Korogo dans le nord ivoirien. D'autres villes également ont été touchées par ce nouvel épisode d'humeur militaire issu de l'Est-Rébellion, tels que Odiné, nord-ouest, à Daoukro, village natal de l'ex-président Henri Konan Bédié, où le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara était hier jeudi en consultation pour la mise en place des institutions de la Troisième République. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, l'état d'alerte maximum dans les casernes est lancé. Pareil pour la capitale politique Yamoussoukro. Tous les officiers supérieurs de l'armée, dont le directeur général adjoint de la police, le colonel Kouyaté, le colonel Touré Hervé Divetcho, l'une des grandes figures de l'ex-rébellion ivoirienne, aussi commandant de la 3e compagnie militaire de Boaké, où tout a commencé, se sont réfugiés à l'escadron de gendarmerie de Boaké. Nareta Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Et à Boaké, justement, écoutons ce témoignage d'un journaliste joint sur place par VOA Afrique. Tidiane Traoré nous raconte les événements de ce vendredi.
Ce matin, on s'est réveillé avec beaucoup de coups de feu qui venaient du centre-ville. Et on s'est rendu compte autour de 5 heures que deux commissariats avaient été pris d'assaut par des militaires et également des ex-combattants appelés les démobilisés. Et à la suite, donc, beaucoup d'événements se sont produits dans la ville, dont notamment l'aéroport qui avait été également assiégé, et puis le camp Génie qui est un bataillon d'infanterie et de gendarmerie au niveau d'Aouniassou, donc un quartier populaire qui est un quartier périphérique de la ville de Boaké. On les voit, ils sillonnent la ville, ils ne touchent pas à la population, mais ils manifestent forcément un mécontentement.
Tidiane Traoré, journaliste ivoirien, joint à Boaké par Salwa Diafari.
Et une première réaction ce soir des autorités ivoiriennes sur VOA Afrique. Le ministre ivoirien de la Défense affirme que la situation est maîtrisée. On écoute Alain Richard de Naoui.
Nous allons apporter des réponses adéquates à toutes ces questions qui se posent, sans vous fuir, et en toute vérité, avec nos hommes. Et en tout état de cause, nous sommes confiants que nous allons résoudre ces problèmes. Je ne pense pas que la situation soit non maîtrisée actuellement. La situation est maîtrisée actuellement. Nous discutons avec nos hommes et ils n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit de mal à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prise d'otage, il n'y a eu aucune tentative de nuire à la vie de qui que ce soit. Et donc, pour le moment, c'est une situation qui est entendue entre nos hommes et nous-mêmes, et nous allons la résoudre.
C'était Alain Richard de Naoui, le ministre ivoirien de la Défense.
En République démocratique du Congo, les évêques catholiques multiplient des contacts avec différentes structures et personnalités politiques pour obtenir l'inclusivité de l'accord signé le 31 décembre dernier. Après le MLC jeudi, ils ont échangé ce vendredi avec le Premier ministre Sami Badibanga, qui est à la tête de la frange de l'opposition qui boude l'accord de la CENCO. Les détails à Kinshasa avec Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire.
Après le renouvellement de leur mandat par le président Joseph Kabila, les évêques membres de la CENCO se sont lancés dans une campagne pour sensibiliser les non-signataires de l'accord du 31 décembre dernier. Jeudi, ils ont rencontré le Front pour le respect de la Constitution. Ils ont, à l'issue de leur échange, obtenu la promesse de la signature de l'accord par le Front pour le respect de la Constitution, une plateforme de l'opposition politique dans laquelle le MLC est le parti principal. Ce vendredi, ils étaient à la primature où ils ont échangé avec le Premier ministre Sami Badibanga, qui est à la tête de la frange de l'opposition, signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Cette frange refuse d'adhérer au compromis de la CENCO. Malgré toutes ces démarches, les évêques sont loin d'obtenir la signature des opposants signataires de l'accord du 18 octobre dernier, puisque ces derniers ont fait une déclaration aussitôt après leur échange avec les évêques pour signifier qu'ils continuent à rejeter l'accord politique signé au centre interdiocésain. Entre-temps, la suite de travaux, c'est-à-dire les arrangements particuliers, n'avance pas du tout. Les différentes parties prenantes aux discussions de la CENCO continuent à déposer leurs propositions au bureau de Monseigneur le Président Marcel Outembi. Depuis Kinshasa, Gino Rema de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Un troisième casque bleu tué mardi en Centrafrique. C'était un casque bleu bangladais. Il a été tué par des hommes armés dans le nord-est du pays, le jour même où deux soldats de la paix marocains ont trouvé la mort dans l'attaque de leur convoi dans le sud-est de la Centrafrique, a annoncé vendredi la force de l'ONU.
Au Kenya, les médecins rejettent une offre du gouvernement et reconduisent la grève. Les médecins kenyans ont rejeté aujourd'hui la proposition du gouvernement d'augmenter de 40% leur salaire et maintenu leur mouvement de grève qui paralyse les hôpitaux du secteur public du pays depuis plus d'un mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président élu Donald Trump doit rencontrer ce vendredi les patrons des services de renseignement américains dans un climat tendu par son scepticisme concernant leur découverte sur une ingérence russe aux multiples facettes dans la récente campagne présidentielle aux États-Unis. Les précisions de John Linden.
Au programme de cette rencontre, la présentation du rapport réclamé par le président sortant Barack Obama sur les interférences commises selon ses services par la Russie dans le processus électoral américain. Moscou rejette catégoriquement ces accusations. Le rapport, qui doit être remis au Congrès dans les prochains jours, a été présenté au président américain hier après-midi. Dans une audition très attendue devant le Sénat américain hier matin, M. Clapper et le chef de l'Agence de sécurité nationale, l'amiral Michael Rogers, en ont donné un léger avant-goût. Mais ils n'ont pas fourni de nouveaux éléments susceptibles de prouver une implication russe. Ils ont néanmoins maintenu leurs accusations contre Moscou. La Maison-Blanche a déjà sévi avec des sanctions la semaine dernière, notamment l'expulsion de 35 diplomates russes. Et elle a prévenu que d'autres représailles suivraient. Moscou a prévu de réagir après la prise de fonction de Donald Trump. Ce dernier reste très sceptique. Un scepticisme qui l'a mis en porte-à-faux avec les élus républicains au Congrès américain.
Restons aux États-Unis où le président Donald Trump, le président élu Donald Trump, a reconnu ce matin que le Congrès devrait plutôt avancer l'argent pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique pour concrétiser au plus vite l'une de ses principales promesses électorales.
Et plus de 15 mois après le début de son intervention militaire en Syrie, en soutien aux forces de Bachar al-Assad, la Russie annonce un retrait graduel de son arsenal déployé sur le terrain. Cette mesure intervient alors que les principaux fronts se sont plus ou moins calmés depuis la chute d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Gabi Dorsil pour des précisions.
Selon le chef de l'armée russe, le général Valery Gerasimov, que cite la presse locale, la réduction des effectifs et armements disponibles dans le théâtre syrien a commencé et se poursuivra dans les prochains jours, notamment avec le départ de la région du seul groupe aéronaval russe participant aux opérations aériennes en Syrie. Grâce à ce dispositif, Moscou a pu offrir une couverture aérienne aux opérations des soldats syriens, tout en s'en prenant directement aux forces rebelles, en particulier les djihadistes du groupe État islamique. Avec la fin des hostilités sur plusieurs fronts et la baisse des violences sur d'autres, le grand allié de Bachar al-Assad porte son attention sur deux objectifs. D'une part, il faut encourager le respect du cessez-le-feu négocié entre Moscou, Ankara et Téhéran, et d'autre part, activer les démarches diplomatiques en vue d'une solution à long terme en Syrie. À ce titre, le trio soutient la tenue prochaine de pourparlers au Kazakhstan entre les parties en conflit. Depuis mars 2011, le conflit syrien a fait plus de 310 000 morts et des millions de déplacés.
Enfin, en Israël, le procureur général a donné son feu vert à une enquête sur les menaces proférées contre le chef d'état-major par des partisans d'un soldat accusé d'avoir achevé un assaillant palestinien. Mercredi, le jeune soldat de 20 ans a été reconnu coupable par un tribunal militaire d'avoir délibérément tué d'une balle dans la tête un Palestinien apparemment hors d'état de nuire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En faisant un point sur l'actualité économique africaine, c'est la Minute Éco présentée par Anastasie Toudiech.
Au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, a mis en demeure l'ancien directeur de l'urbanisme et de l'habitat du Sénégal, Mamadou Diagne, de s'expliquer sur son patrimoine, estimé à 5 milliards de francs CFA. C'est ce que rapporte aujourd'hui la presse locale. L'aéroport international de la capitale nigériane, Abuja, sera fermé pendant 6 semaines à partir du 8 mars pour réhabiliter la piste devenue dangereuse. Les passagers pourront faire le trajet Abuja-Kaduna selon leur portefeuille, soit par hélicoptère, soit par bus, avec des mesures de sécurité renforcées, plusieurs enlèvements ayant eu lieu récemment sur cet axe. Fin de résidence surveillée pour Benny Steinmetz. Le milliardaire franco-israélien avait été interpellé le lundi 19 décembre à Tel Aviv pour des faits présumés de corruption dans l'exploration des gisements guinéens de fer entre 2005 et 2014. L'interpellation du milliardaire par la police intervenait dans le cadre d'une enquête internationale qui concerne la Guinée. Benny Steinmetz et plusieurs Israéliens vivant à l'étranger sont en effet suspectés d'avoir payé plusieurs dizaines de millions de dollars de pots de vin à des cadres de la fonction publique guinéenne.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Tatiana.
Mahrez, roi d'Afrique.
Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur africain de 2016. C'était hier soir à Abuja, au Nigeria, lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football. Le joueur algérien a remporté 361 voix devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant favori, mais qui n'a recueilli que 313 votes. Le vote de Mahrez n'est pas du tout un hasard. Il a réalisé une saison 2015-2016 phénoménale. Il a remporté le championnat d'Angleterre avec son club Leicester City. Il a également été désigné par ses pairs et par les supporters meilleur joueur de Première Ligue.
Un petit nouveau dans la liste du Burkina Faso pour la CAN.
Le sélectionneur Paolo Duarte a retiré de la préliste des 25, publiée le 21 décembre, les défenseurs Ernest Congo et Issoumaïla Lengani. En revanche, le milieu de terrain Blati Touré de l'Omonia Nicosie, appelé pour la première fois, a été retenu, ainsi que les cadres habituels, les frères Alain et Bertrand Traoré, Aristide Bansé, Jonathan Pitroipa ou encore Charles Caboret, le capitaine. Deux joueurs locaux figurent également dans le groupe, Aboubakar Sawadogo du RC Kadiogo et Yakuba Koulibaly du RC Bobo. On rappelle que les étalons ont débuté le 27 décembre un stage de préparation de 12 jours à Marrakech. Ils ont perdu 1-0 lors du premier match amical mercredi face à la sélection A' du Maroc. Ils livreront demain un deuxième match amical contre le Mali, également qualifié pour la CAN.
L'équipe brésilienne de Chapecoense va rejouer dans moins de 3 semaines.
Oui, souvenez-vous Tatiana, c'est cette équipe qui cherche à se reconstruire après la catastrophe aérienne qui a décimé presque l'intégralité de son effectif. C'était fin novembre en Colombie. Eh bien, cette équipe rejouera pour la première fois le 21 janvier un match amical contre Palmeiras. La rencontre aura lieu à l'Arena Conda, stade de la ville de Chapeco, dans l'état de Santa Catarina.
La NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, Russell Westbrook a frôlé les 50 points contre Houston, mais Oklahoma City s'est incliné face à l'équipe en forme du moment, les Houston Rockets de James Harden, le score 116 à 118.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahman Dia et Tatiana Mosso avec vous. Place au dossier du jour, retour sur la révolte de certains militaires en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Défense qui tente de calmer le jeu et de discuter avec les mutins pour satisfaire les revendications exprimées. Pour comprendre ce mouvement de colère qui ne date pas d'hier dans les rangs de l'armée ivoirienne, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'analyste de International Crisis Group, Rinaldo Depagne.
C'est pas surprenant, premièrement, et deuxièmement, ça rappelle des événements qui ont eu lieu en 2014 et qui sont, à mon avis, similaires. C'est-à-dire qu'une partie de l'armée, la base de l'armée, se sent maltraitée, vit parfois dans des conditions et des casernements qui sont très difficiles. Il faut savoir aussi qu'en Côte d'Ivoire, au terme d'un très long plan de démobilisation, il y a eu un enchevêtrement de promesses, souvent non signées et non respectées, pour calmer l'armée qui ressort régulièrement. Alors après, il y a la date. On est le 6 janvier, ce mouvement de grogne qui, à mon avis, a pour objet de meilleures conditions de vie et peut-être le paiement de primes qui ont été promises et qui n'ont pas été payées intervient quelques jours après les fêtes de fin d'année. Et très certainement, on peut imaginer que nombreux de ces militaires et leurs familles ont fait des dépenses pour les fêtes de fin d'année et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent. Donc, il y a un mouvement de colère. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, on a tendance à régler les problèmes, non pas à leurs racines, mais quand ils sont là. Et une fois de plus, le gouvernement est confronté à une mutinerie et n'a pas très certainement bien compris les leçons de la mutinerie précédente.
Le ministre de la Défense réfute l'idée d'une mutinerie et semble minimiser l'ampleur de la grogne.
Bon, le terme mutinerie est peut-être discutable, mais il y a à l'évidence un mouvement de grogne qui est peut-être spontané, mais qui se propage à quatre casernes, Bouaké d'abord, puis Daloa, Korogo et maintenant, je crois bien, Daoukro. Et donc, c'est peut-être pas une mutinerie, mais en tout cas, c'est un mouvement de colère profond et qui dénote d'un problème de répartition de la richesse. Donc, on est dans un pays relativement aisé par rapport à ses voisins de la région, qui a un taux de croissance fort, mais personne ou très peu de personnes profitent de cette croissance, y compris les militaires.
C'était l'analyste Rinaldo Depagne à Dakar.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
L'ONG britannique Survival International a déposé une plainte contre le WWF à l'OCDE. Le Fonds mondial pour la nature est accusé de financer des activités violant les droits de l'homme des pygmées au Cameroun. Selon Survival, les Baka et d'autres tribus du bassin du Congo ont rapporté des abus systématiques commis par des équipes de lutte contre le braconnage financées par le WWF, dont des arrestations, des passages à tabac, des tortures et même des morts depuis plus de 20 ans. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg rejoint Michael Huron, chercheur pour Survival.
L'objet de la plainte, c'est de convaincre le WWF de respecter les droits de l'homme des pygmées Baka dans le sud-est du Cameroun. Ça fait plus de 20 ans qu'on écrit au WWF par rapport au projet qui mène sur les terres ancestrales des Baka, dont une grande partie a soit été désignée parc national, soit octroyé à des sociétés de chasse à safari. Et les Baka ont été destitués de leurs droits sur la terre. En théorie, les Baka sont autorisés à pénétrer dans certaines parties des parcs, mais en réalité, leurs droits sont fréquemment ignorés par les gardes forestiers financés par le WWF. Et les Baka font face à des abus, à des exactions comme les bastonnades, même la torture, le harcèlement, et certains n'ont pas survécu à la torture de ces brigades anti-braconnage.
Et vous parlez également de raids nocturnes, donc des éco-gardes accompagnés de ce qu'on appelle les BIR, les bataillons d'intervention rapide contre le braconnage.
Oui, tout à fait. Donc les deux constituent ce qu'on appelle les brigades anti-braconnage. Le WWF donne de l'appui financier, logistique et technique à ces brigades.
Alors, vous-même, vous êtes donc chercheur chez Survival. Vous avez recensé ces cas, vous avez parlé à ces pygmées, à ces bakas qui ont été violentés.
Oui, j'ai parlé avec dizaines de bakas, des hommes, des femmes, même des enfants, des femmes enceintes, qui ont tous connu ces exactions aux mains des équipes anti-braconnage. Et ça fait plus de 15 ans que les bakas, des organisations camerounaises et internationales ont porté plainte auprès du WWF, mais le WWF a à plusieurs reprises refusé d'agir de manière efficace.
C'est la première fois que l'OCDE déclare recevable une plainte d'une ONG. Est-ce que pour vous, c'est une vraie victoire ?
Oui, on espère que l'OCDE aura plus de succès à convaincre le WWF de honorer la loi internationale et aussi leurs principes. Le WWF prétend qu'il ne soutiendra jamais des aires protégées ou bien l'exploitation forestière si celles-ci n'ont pas reçu le consentement libre, éclairé et préalable des bakas. Mais en réalité, au Cameroun, c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire.
C'était Michael Huran, chercheur pour l'ONG Survival International.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Deux groupes de populations indigènes de Namibie ont déposé devant un tribunal de New York un recours collectif contre l'Allemagne. C'est pour obtenir réparation d'un génocide présumé durant la période coloniale. Dili Diko revient sur ce dossier.
Dans le recours collectif déposé hier par des associations de populations Herero et Nama, figure la demande de leurs représentants de participer aux négociations entre l'Allemagne et la Namibie sur le génocide. Berlin et Windhoek négocient actuellement une déclaration commune dans laquelle l'Allemagne entend s'excuser des massacres dans son ancienne colonie africaine, mais ne considère pas devoir verser des dédommagements. À ce sujet, on écoute Jefta Nguerimo, vice-président de l'Institut sur le génocide de ces populations.
Le gouvernement allemand avait accepté d'utiliser le terme génocide et de faire des excuses officielles. Mais il n'est pas disposé à payer des réparations, mais il est prêt, d'après certaines sources, de financer des projets pour les communautés touchées, ce qui est contraire à ce que la communauté concernée demande. Ce qu'ils veulent, ce sont des pourparlers avec le gouvernement et des compensations, et nous souhaitons pouvoir déterminer les projets que nous voulons voir financés. Donc, dans ce cas, le gouvernement allemand est l'auteur du crime et il veut fondamentalement dicter ce qu'il veut.
Les Herero et les Nama réclament donc une reconnaissance officielle de leurs droits et l'assurance qu'aucun règlement de soi ne sera conclu sans leur assentiment. Parmi leurs demandes concrètes figurent des terres et des bourses d'études. On retrouve Jefta Nguerimo.
Nous voulons parler des compensations, nous voulons construire des institutions de notre choix, des bourses pour nos étudiants, nous voulons acheter des terres de la population allemande qui occupe actuellement nos terres.
Questionné sur son avis sur une résolution positive de ces négociations, Jefta Nguerimo s'est montré pessimiste.
Il n'y aura pas de résultats positifs, en particulier si des communautés qui ont été touchées ne participent pas et ne sont pas d'accord. Nous allons continuer à ignorer complètement leurs excuses et nous allons continuer à réclamer.
On rappelle qu'entre 24 000 et 100 000 Herero sont morts lors de ce génocide et 24 000 Nama.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
On On se quitte en musique en République centrafricaine. Un groupe de hip-hop a voulu entamer l'année 2017 en lançant des appels à la paix et à la réconciliation. Zach Badorf les a rencontrés à Bangui. Et c'est un récit signé Trésor Matondo.
Voici One Force, un collectif hip-hop composé des chrétiens et des musulmans.
One Force est une arme pour combattre la violence. Je leur demande que on ne construit pas un pays avec les armes. Alors, si nous voudrions que la Centrafrique se relève demain, changeons nous-mêmes.
Bangui la coquette, regarde ce que t'es devenu.
Le collectif a été fondé par un étudiant de Bangui, Lionel Photo. L'une des chansons du collectif a tout simplement pour refrain « Nous voulons la paix ». La RCIA a profondément changé depuis le coup de rebelles Séléka en 2013. Une milice s'est établie contre les rebelles majoritairement musulmans et la violence s'est emparée du pays.
Où j'ai vu devant moi massacrer des petits-enfants, où j'ai vu des anti-Balaka et des Séléka massacrer des gens. Mais cette violence doit s'arrêter parce que nous voulons tous la paix. Et One Force est partisan de la paix. Et cette paix, nous la lutterons pour toujours.
La réconciliation ne sera pas facile, mais il faut tout dire avoir uni ses rappeurs pour montrer que cela était bien possible. Ils profitent de toute occasion pour transmettre ce message. Cela se reflète notamment par leur concert du Nouvel An au PK5, ce quartier majoritairement musulman qui était une vraie poudrière durant la crise. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui y vivaient ont dû s'enfuir. Le quartier est jusqu'à présent très tendu.
Les gens ont un peu peur de venir dans cette partie de la ville. Ils ont aussi peur d'organiser des événements ou des concerts ici.
L'artiste hip-hop Mohamed Saleh dit qu'il est temps de mettre fin à toute cette méfiance.
C'est comme le prison par ici. Les musulmans sont renfermés, ils sont sur place, ils ne tournent que au rang. Donc nous sommes venus pour véhiculer ce message-là aussi. Pour que les musulmans puissent sortir, être libres, marcher comme ils veulent.
Et ce concert est une dose de normalité bienvenue.
Nous, avec les chrétiens, on vit à l'harmonie il y a longtemps. Et ce qui s'est passé maintenant, là, vraiment, ce n'est pas normal. Mais maintenant, comme vous êtes venus pour s'amuser ensemble avec nous, là, je suis très, très content.
Et ça, comme le dit l'artiste, c'est une raison d'espérer, de rêver à de jours meilleurs.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive, participez en direct. RM Show vous dit... Peace, Africa!
De que tú me llames después del huracán viene la calma y su dicen para no descontrolarme no puedo comer no puedo dormir no logro enfocarme solo pienso en ti ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar pasar
voilà, c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Michel Joseph à la console Cornelius Ténor. Présentation Tatiana Mosso et Abdourahman Dia.
Maintenant la conversation via Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar sur 102 FM.
91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.